un maître, deux de ses disciples et un domaine scientifique qu'ils partagent. C'est ce qui nous réunit tous les dimanches de l'été pour ce rendez-vous chercheurs d'avenir. Qu'est-ce qui les a poussés à choisir leur voie de recherche? Qu'ont-ils apporté de nouveau à leur domaine scientifique? Et comment se projettent-ils dans le futur? Ce sont les questions que nous explorons donc chaque semaine pour comprendre de quoi sera fait le monde de demain. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous notre chercheur d'avenir aujourd'hui. Votre métier, c'est l'anthropologie. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, et vous êtes considéré comme l'anthropologue de langue française le plus influent aujourd'hui grâce à vos travaux ethnographiques qui vous ont mené principalement en Équateur. Vous avez étudié les Indiens d'Amazonie. En 2012, vous avez reçu la médaille d'or du CNRS pour l'ensemble de vos travaux. Donc on va passer la première partie de l'émission en tête à tête. Et puis dans la seconde, vous nous présenterez deux de vos disciples. Qui sont-ils ?
Alors, parler de disciples, c'est peut-être un peu excessif, surtout en anthropologie, où, au fond, les chercheurs se forment d'abord eux-mêmes, en grande partie, à travers leur expérience ethnographique. Et donc, ils peuvent avoir des idées au départ, une certaine orientation de recherche qu'ils ont pu acquérir au contact d'un chercheur plus âgé. Mais au fond, cette direction, ils la développent ensuite par eux-mêmes à travers l'expérience ethnographique. Alors, l'un d'eux, j'ai dirigé sa thèse, c'est Péric Pitrou, qui a travaillé au Mexique, chez des gens qui s'appellent les Mixé, qui a travaillé sur des questions liés à la politique et en particulier au rôle de la religion traditionnelle dans la politique. Et l'autre, c'est Charles Stepanov. Je n'ai pas dirigé sa thèse, mais je suis ses travaux avec beaucoup d'intérêt depuis longtemps, qui est un spécialiste de la Sibérie. Et il y a une école en France qui s'est progressivement développée de chercheurs sur cette zone qui était pendant longtemps délaissée, pendant l'époque soviétique, sur la Mongolie et sur la Sibérie, qui est extrêmement vivace à l'heure actuelle.
Et on fera connaissance donc avec eux dans quelques minutes, une émission en partenariat avec l'hebdomadaire Le Point. Philippe Descola, à tout de suite.
Mathieu Vidard sur France Inter. Yeah.
Aretha Franklin, Think. Philippe Descola, vous êtes donc notre invité cette semaine. Vous êtes anthropologue. On va essayer de comprendre votre discipline aujourd'hui. Comment également elle va s'illustrer dans les années qui viennent? Alors, vous avez commencé votre parcours par des études philosophiques. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, pour vous, les choses sérieuses ont commencé dans les années 70 lorsque vous partez chez les Givaro?
Ah oui, c'était une démarche tout à fait délibérée. Je voudrais pas dire que j'ai fui la philosophie, mais j'ai fui une certaine façon de faire de la philosophie. Je suis pas le seul d'ailleurs, puisque l'anthropologie en France et la sociologie, aussi les sciences sociales d'une façon générale, ont été alimentées par des professeurs de philosophie depuis plus d'un siècle. Mais la façon dont on l'a pratiquée dans les années 70, c'était à mon sens trop lié à des interprétations de textes se répondant les uns aux autres. Et il m'avait semblé qu'il était plus intéressant de voir comment les questions philosophiques classiques, hein, y compris les fameuses questions kantiennes, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, etc., sont des questions qui se sont posées partout, mais peut-être pas tout à fait dans la forme auquel les philosophes sont habitués. C'est pour ça qu'il m'a été, j'ai eu très envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs.
Alors, où allons-nous, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, évidemment, dans cette émission. Donc, vous partez dans les années 70.
Je pars dans les années 70 et je pars en Amazonie pour une raison, pour de multiples raisons. Mais peut-être la principale étant que, au fond, ces sociétés étaient extrêmement énigmatiques. Elles n'avaient pas les institutions ostentatoires que l'on trouve ailleurs dans d'autres régions du monde, dans des sociétés non modernes. Je pense à l'Afrique, je pense à la Polynésie, par exemple, où on a des groupes de filiation, des systèmes de chefferie, des belles organisations segmentaires, comme nous disons dans notre vocabulaire, bien imbriquées, des machineries, en somme, qui fonctionnent très bien, qui quelquefois se grippent, mais en tout cas, que l'on peut décrire avec beaucoup de minutie. En Amazonie, il n'y avait rien de tout ça. On était dans un monde qui était quasiment anomique, c'est-à-dire où il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de groupe de filiation, précisément, et où, par conséquent, il était difficile de dire, mais qu'est-ce qui fait société dans ce monde-là? Et l'une des raisons pour lesquelles je suis parti en Amazonie, c'est qu'il m'avait semblé que l'une des choses qui faisait société, c'était une manière précisément de faire société avec autre chose que des humains. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel, au fond, les voyageurs, les naturalistes, depuis longtemps, avaient attiré l'attention en disant, ces gens-là, ils ont un rapport bizarre à la nature. Au fond, ce sont des appendices de la nature. Ouais. C'est vrai, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, simplement, il fallait faire un pas de côté, et au lieu de les voir comme des appendices de la nature, penser au contraire que c'était la société qui englobait tout. C'est-à-dire, au fond, les relations sociales englobées dans leur champ les non-humains.
Claude Lévi-Strauss, en 1971, donc c'est quelques années avant votre départ pour l'Amazonie, il répondait à Jacques Chancel dans Radioscopie.
J'essaye de conserver présent la mémoire des hommes de notre civilisation et de civilisation de l'avenir, des genres de vie profondément différents de ceux que nous connaissons. C'est une tâche de conservateur, ça n'est pas une tâche de novateur.
Mais comment veut-il vous appeler? Savant, philosophe, ethnologue, anthropologue, ou mieux encore chercheur? Car je sais que vous passez une grande partie de votre temps dans votre laboratoire.
Non, chercheur est un très bon terme, mais disons un chercheur en ethnologie ou en anthropologie, puisque ce sont des mots qui sont devenus à peu près synonymes dans l'usage universitaire et scientifique.
Philippe Descola, en 1971, vous auriez pu entendre cette radioscopie de Claude Lévi-Strauss. Quel souvenir vous en gardez alors?
De Claude Lévi-Strauss, c'était un homme très impressionnant par l'image que nous nous en faisions, et que je m'en fais toujours, c'est-à-dire d'un très grand esprit, d'un très grand savant, d'un très grand intellectuel du XXe siècle. Et cette aura qui l'entourait et qui, pour moi, le rangeait dans une galerie de portraits où il prenait place à côté des plus grands philosophes de l'histoire de notre tradition européenne, évidemment paralysé un peu le jeune chercheur que j'étais.
C'est ça, ouais.
Cela dit, après mon retour du terrain, il s'est montré avec moi d'une extrême gentillesse. Il aimait, au fond, évoquer une période de sa vie qui, à l'évidence, là, et on le voit dans ses écrits, l'a beaucoup stimulé, qui était son séjour au Brésil. Pas simplement, d'ailleurs, sur le terrain, chez les Nambiquara ou chez les Bororo, mais en général, sa vie au Brésil. Et il aimait beaucoup parler du Brésil et bien évidemment des Amérindiens. Et ça, c'était un sujet de conversation avec lequel on pouvait toujours tenir, j'allais dire, parce que Claude Lévi-Strauss était d'un laconisme dans les conversations qui étaient parfois un peu paralysantes.
Qu'est-ce que ça représente dans le champ scientifique, au fond, l'anthropologie, à cette époque, au-delà même de la figure de Lévi-Strauss hein.
C'était quand même beaucoup la figure de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que Lévi-Strauss a fait sortir l'anthropologie du monde universitaire et lui a donné ses lettres de noblesse. Et lorsqu'on parle de l'épanouissement de l'anthropologie dans les années 60 et 70, il faut dire l'épanouissement de l'anthropologie à travers l'œuvre de Lévi-Strauss, parce qu'il lui a donné une légitimité qui vient en particulier aussi du vocabulaire philosophique qu'il employait. Et c'est donc cela qui a surtout marqué, parce que la tradition en France de l'ethnologie de terrain, au fond, est assez récente par rapport au monde anglais et américain, mais disons les plus proches, c'est-à-dire les Anglais, qui est l'autre grande puissance européenne en matière d'anthropologie. Les Anglais faisaient des enquêtes de terrain, des longues enquêtes de terrain, depuis à peu près la guerre de 14. Ouais. Alors qu'en France, ça s'est passé beaucoup plus tard. En France, on a maintenu pendant très longtemps la tradition des expéditions.
C'est ça.
On allait à plusieurs archéologues, à la fameuse expédition Dakar-Djibouti, par exemple, où on traverse l'Afrique, on collecte des objets pour les musées, on fait des enquêtes ethnographiques qui, dans certains cas, sont de qualité, mais c'est pas du tout le terrain dans lequel on va demeurer pendant un an, deux ans, trois ans, apprendre une langue et essayer d'épouser les idées des gens et les pratiques des gens parmi lesquels on s'est installé.
Donc c'est le cœur de la discipline, l'enquête de terrain justement, et l'immersion pendant un temps long dans un pays lointain, ce qui est votre cas, vous choisissez donc l'Amazonie équatorienne. Pourquoi justement choisir cet endroit en particulier et l'isolement aussi ?
Pour son côté énigmatique, hein, c'est-à-dire au fond c'était une sorte de scandale logique. Il n'y avait pas là de société visiblement apparente et c'est une formule qu'on cite souvent lorsque les chroniqueurs de la Renaissance parlaient d'un monde sans foi, sans loi, sans roi. Ça voulait bien dire qu'aucune des institutions qui à l'époque étaient reconnaissables dans les monarchies européennes n'était présente dans ce pays, à la différence de ce qui se passait dans les Andes où il y avait un clergé, des temples, une administration, etc. Là, rien de tout cela. Donc il y avait ce côté-là qui était tout à fait excitant. Un autre côté excitant aussi, c'était au fond une sorte d'anarchisme de la vie sociale qui était très excitant pour un jeune homme. Au fond, l'Amazonie attirait les esprits un peu solitaires, les esprits rebelles, et on vivait en plus dans des conditions où on pouvait pas faire autrement, la vie des Amérindiens, à différence de certains de mes collègues africanistes qui, à l'époque, était encore inscrit dans le système presque colonial ou post-colonial, en tout cas, dans lequel on travaillait avec des informateurs rétribués, avec des... Il fallait passer par des chefs de village, par des chefs de cercle, etc., etc. Nous, on partait dans la forêt le plus discrètement possible, parce que assez souvent, ces sociétés étaient en but aux persécutions des colons ou même des autorités politiques, et ont partagé leur vie pendant quelques temps. Donc c'était fascinant pour un jeune philosophe qui avait passé une partie de son adolescence et de sa jeunesse à lire des textes ardus.
Vous revenez en 1979. En 2005, vous publiez Part de la nature et culture, c'est-à-dire 30 ans après votre immersion. C'est le temps de la maturation aussi, au fond, de ce que vous avez vu. C'est un temps très long, non ?
Alors, le terrain ethnographique, c'est un déclencheur. Au fond, les questions qu'on se pose par la suite dans la carrière d'un anthropologue, c'est-à-dire lorsque on dépasse le travail d'enquête et d'interprétation des données ethnographiques que l'on a recueillies sur un terrain et qu'on essaye d'embrasser plus large en utilisant les matériaux ethnographiques que d'autres ont recueilli, soit à proximité, soit d'autres régions du monde. Eh bien, ce déclenchement initial pour le travail de l'anthropologie vient des questions que l'on rencontre sur le terrain, des bizarreries en quelque sorte, des questions auxquelles on ne peut pas trouver de réponse et qui, au fond, formulent en filigrane, en négatif en quelque sorte, des programmes de recherche. Et le programme de recherche qui s'est imposé à moi lorsque je suis revenu du terrain, c'était, ayant découvert sur le terrain que les Indiens Achuars ne considéraient pas ce que nous appelons la nature comme un domaine séparé de la vie sociale, je me suis dit, bon, ça c'est quand même étonnant, surtout que mon maître avait, Lévi-Strauss, avait clairement défini une distinction entre nature et culture qui était à l'origine de la vie sociale, etc., et qu'il avait beaucoup utilisé cette opposition dans ses analyses de mythes en particulier. Je me suis dit, là, ça ne marche pas. Et donc, le programme, il découlait tout naturellement de ça, c'est essayer de comprendre comment, à différentes époques, mais surtout dans différentes régions du monde, on s'était posé la question du rapport entre les humains et les non-humains.
Et donc, il y a cette proposition théorique aussi que vous faites, ce que je disais, en 2005, avec ces quatre ontologies.
Oui, alors c'est la maturation, ouais. En quelque sorte, et la maturation qui arrive dans un livre, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps, et une chose qui est très positive, évidemment, pour un anthropologue, c'est de pouvoir enseigner. Et dès que j'ai soutenu ma thèse, j'ai eu la bonne fortune d'être élu maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'avais un séminaire de recherche, et donc j'explore avec les étudiants ce qui allait devenir, en quelque sorte, le chemin de recherche qui a abouti, entre autres choses, à part de la nature et culture.
Ouais. Est-ce que justement cette théorie que vous bâtissez, elle a aussi pour ambition de pouvoir changer la société, changer nos rapports à l'autre, le vivre ensemble ?
Alors, elle a pour ambition en particulier de nous déprendre des catégories au moyen desquelles nous pensons le monde. C'est-à-dire que, pour dire les choses très simplement, la plupart des concepts que nous utilisons, quand je dis nous, c'est à la fois nous, les gens du commun, et les professionnels des sciences sociales, sont des concepts qui sont dérivés de la philosophie des Lumières, disons, ou de la théorie du droit romain, que nous avons tendance à penser comme étant des concepts universels. Je ne vais pas revenir sur nature et culture, dont j'ai essayé de montrer qu'ils étaient tout sauf universels. Mais même le concept de société, c'est-à-dire l'idée que des humains s'assemblent pour forger un vivre ensemble fondé sur des conventions, en excluant le reste du monde, est quelque chose d'incroyablement récent, et qui, dans d'autres régions du monde, d'ailleurs, n'a aucun sens. Et les formes d'assemblage qui existent dans d'autres régions du monde sont toutes différentes. Et il me semble qu'il y a un travail de refonte des concepts de base des sciences sociales fondés sur la prise en compte de ce pluralisme.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça a des conséquences en ce sens que le modèle au sein desquels nous sommes installés, c'est-à-dire, disons, le capitalisme fondé sur à la fois l'exploitation des ressources et l'exploitation de la force de travail, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est tout récent dans l'histoire de l'humanité. C'est une formule parmi d'autres dont rien ne nous permet de penser qu'elle est éternelle. Sans vouloir penser que l'anthropologie a pour mission d'apporter des formules de vie alternatives, parce que ça serait absurde. Les Achuas ne constituent pas une formule de vie alternative
pour nos sociétés
à l'heure actuelle. Mais en revanche, toutes les expériences sociales qui ont été menées dans le monde constituent autant de variations, de dispositifs que les anthropologues essayent de mettre en évidence et qui peuvent permettre de penser des formes différentes d'organisation, d'association dans le futur.
Alors justement, Philippe Descola, concrètement, votre discipline peut aider la société, peut aider le collectif ?
Je crois que nous ne ferions pas ce métier si nous ne le pensions pas. Vous savez, Taylor, qui est un des grands ancêtres de la discipline, l'anthropologue anglais, disait à la fin du 19e siècle, tous les anthropologues sont des réformateurs. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais parce que au fond, se poser la question de voir comment d'autres peuples répondent à des questions que nous nous posons, nous, ou ont inventé des formes d'organisation et de vie commune qui sont différentes des nôtres, pose déjà l'idée que ce que nous faisons n'est pas éternel et n'est pas nécessairement tenu pour ce qu'il y a d'optimum. Ce sont quelquefois des sociétés de 500 000 personnes qui, à chaque fois, constituent, au fond, une réponse particulière au défi de la condition humaine et du vivre ensemble. Donc, chacune de ces sociétés isolément ne constitue pas une réponse, mais c'est la variation entre ces différentes sociétés et les différences qu'elles exhibent et qui permettent de mettre en évidence, au fond, ce qu'elles ont aussi en commun, qui peut nous apporter des stimulations, en tout cas, pour penser un futur différent.
Philippe Descola, on se retrouve dans un instant pour une rencontre et une discussion donc avec deux figures de la nouvelle génération, on peut le dire comme ça, de l'anthropologie, Charles Stepanoff et Péric Pitrou.
J'ouvrirai la porte à mon jardin d'été pour que les enfants sortent par une belle journée. Sous ma peau et je chante pour toi. Les oiseaux pleurent. au-dessus des frontières, au-dessus des collines. Terre de mon poème, je ne te connais pas. Tu coules sous ma peau et je chante pour toi. Les morts ne sont pas morts, écoute plus souvent. Terre de mon poème, je ne te connais pas. Tu brûles sous ma peau et je chante pour toi.
Terre de mon poème dans Chercheur d'avenir, Yéli Yéli à l'instant. Chercheur d'avenir avec l'anthropologue Philippe Descola, et c'est donc la deuxième partie de l'émission pendant laquelle l'invité nous présente. Alors, comment je peux les présenter, Philippe Descola, vos disciples? Vous me disiez tout à l'heure, non, pas de disciples, alors que vous parliez vous-même de votre maître Claude Lévi-Strauss, hein, tout à l'heure.
Mais c'est probablement la définition du disciple, c'est-à-dire que le disciple croit être le disciple de quelqu'un, c'est ça. Alors que le maître pense qu'il n'a pas de disciples. Je pense que c'est des jeunes collègues que j'ai accompagnés à un moment de leur trajectoire scientifique et avec lequel je continue à échanger avec beaucoup de plaisir.
Charles Stepanoff et Péric Pitroux, bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Est-ce que vous vous considérez comme les disciples du maître Descola, Péric Pitroux?
Je vais peut-être pas rentrer sur la discussion du terme en tant que tel. En tout cas, ce qui est évident, c'est que la rencontre de Philippe Descola à l'EHESS, lorsque j'assistais à ses cours, et au Collège de France également, a été crucial dans mon développement intellectuel, puisque j'étais professeur de philosophie au lycée,
passionné
par le Mexique, en particulier par les sociétés précolombiennes. Et donc j'avais à l'époque préparé un DEA sur le Mexique. Et j'assistais au cours de Philippe Descola, et plus j'assistais à ses cours, plus je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de faire et envie de continuer. Et donc j'ai décidé finalement de soumettre un projet de thèse à Philippe Descola.
Ouais.
Et là, il y a eu un moment important, et un moment qu'on pourrait dire de recadrage, et aussi où Philippe Descola est intervenu vraiment en directeur de recherche.
Que s'est-il passé?
Puisque je suis arrivé lors de la première discussion, après lui avoir envoyé un projet de recherche en ethnographie sur les sociétés du Mexique à Oaxaca. Et j'ai commencé à expliquer que j'avais prévu d'aller 2-3 mois par an, plutôt l'été, sur le terrain. Et là, il y a eu un moment où Philippe Descola m'a tout de suite fait comprendre qu'il fallait partir au moins 2 ans, sinon les choses ne seraient pas bien faites. Donc là, il y a eu un moment de prise de conscience pour moi, un peu aussi, j'avoue, de doute, parce que je suis sorti du bureau de Philippe Descola avec cette impression que je m'étais engagé en quelque chose que je n'avais pas prévu. Et évidemment, l'arrivée...
Pourtant, c'est l'essence même de ce travail d'anthropologue ou d'ethnologue, en tout cas, de partir sur un temps long, et vous en connaissiez toute l'histoire, sur le terrain. Et pour autant, l'idée de partir aussi longtemps, ça vous a chamboulé.
Voilà, j'étais pas encore... la mue n'avait pas encore eu lieu, et c'est vraiment en arrivant sur le terrain avec ce conseil assez ferme de mon directeur de recherche que j'ai pris la patience de passer ces 2 années, et maintenant j'en suis à 2 ans et demi de terrain, et c'est vrai que je suis très reconnaissant finalement à cette pression.
Qu'est-ce qui fait peur au fond? Est-ce que le fait de se déconnecter aussi de sa société d'origine peut aussi susciter une certaine crainte?
Bien sûr, on perd forcément quelque chose dans une situation comme cela. On fait l'expérience de la solitude, on fait l'expérience de conditions de vie qui sont parfois assez précaires. Donc il y a tout un ensemble finalement d'étapes qui sont douloureuses. Alors ça fait penser à une histoire que tu racontes souvent, Philippe, sur la temporalité du terrain. Je crois que c'était Ian Pritchard qui racontait cette histoire.
Non, c'est Meyer Fortes, qui est un grand anthropologue anglais, qui avait comme directeur de thèse le fondateur de l'ethnologie de terrain, la grande figure de l'anthropologie anglaise, qui est Malinowski. Mmh. Et Malinowski disait à Meyer-Fortes, qui me l'a raconté, vous voyez, c'est des transmissions de tradition orale, parce que Fortes est maintenant mort, que lorsqu'il est parti sur le terrain en Afrique, chez les Talensi, Malinowski lui a dit, Meyer, vous allez m'écrire dans un mois pour me dire, oh, c'est affreux, il fait chaud, les gens sont pas sympas, la nourriture est infecte, il y a des moustiques, c'est très désagréable. Puis vous allez m'écrire une autre lettre pour me dire, quelques mois plus tard, que ça va mieux, que vous avez des bons informateurs, vous commencez à accumuler des informations. Puis vous allez m'écrire encore d'autres lettres comme ça. Et puis au bout d'un an, vous allez m'écrire une lettre en me disant, bon, voilà, j'ai à peu près tout, maintenant je m'apprête à revenir. Et puis, dans un an et un mois, vous allez m'écrire une autre lettre pour me dire « j'ai rien compris ». J'ai rien compris, il faut que je reste encore au moins un an. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que c'est le fondateur de l'ethnologie de terrain qui avait transmis ce conseil, et ce conseil, il est encore valide, maintenant.
Charles Stepanov, alors vous aussi, vous venez de la philosophie, ça c'est votre point commun, du coup, à tous les trois. Qu'est-ce qui fait le lien, au fond, entre la philosophie et l'anthropologie, ou qu'est-ce qui précisément les distingue ?
D'une insatisfaction, je pense, par rapport à la philosophie. Moi, personnellement, elle m'a appris à poser des questions fondamentales, à essayer de clarifier les concepts, les poser de la façon la plus précise possible. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas en philosophie que j'obtiendrais des réponses. Et du coup, il fallait chercher ailleurs. Et c'est mes maîtres en philo qui me l'ont dit. Là, vous avez un projet de DEA qui est pas un projet de philosophie, qui est un projet d'anthropologie. Donc, il va falloir aller sur le terrain.
Alors, vous aussi, vous avez choisi quel terrain en ce qui vous concerne?
Alors, moi, c'est la Sibérie. Ouais. Je travaillais d'abord en philosophie sur les questions de philosophie du langage, avec Wittgenstein, et l'usage poétique de la parole, comment les humains utilisent la parole dans certaines circonstances, en dehors de fonctions purement de communication transparente. Ouais. Et j'ai essayé d'explorer ça du côté de la magie, comment les humains se servent des mots pour transformer le monde. Et je suis reconnaissant à Philippe Descoël, c'était la question. Je ne peux pas dire que je suis directement disciple, mais j'aimerais bien pouvoir affirmer que c'est un de mes maîtres, parce que c'est quelqu'un qui a créé un espace, su maintenir un espace où on a cet équilibre très fragile et nécessaire entre la volonté du terrain et une ambition théorique qui fait que l'anthropologie mérite son nom. Le terme s'est imposé, mais l'ambition derrière, elle est parfois oubliée. C'est-à-dire l'ambition de mener une réflexion globale sur l'homme dans sa totalité.
Alors c'est vrai que tous les deux, au fond, vous incarnez bien aussi cette idée qu'on peut se faire de l'anthropologie avec des terrains d'enquête assez lointains, le Mexique ou la Sibérie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un jeune anthropologue aussi travaille sur des distances plus courtes ou sur des thématiques de proximité ? Est-ce que c'est ça aussi ce métier d'anthropologue aujourd'hui ? Péric Pitrou.
Bah, y a évidemment une grande pluralité de types d'enquêtes qui peuvent être faites, y compris dans des zones très proches, en France ou à Paris.
Ça peut s'illustrer comment ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien ? Parce que là, on a une certaine idée d'une anthropologie un peu exotique.
Classiquement, on a eu tendance à distinguer la sociologie qui étudierait les sociétés proches à travers des analyses quantitatives et l'ethnologie qui étudierait des sociétés de petite taille, plutôt exotique. Mais évidemment, les cartes sont en train d'être brouillées. Ouais. Il est tout à fait possible de mener des enquêtes ethnographiques sur des sociétés proches, dans des laboratoires de sciences, par exemple, ou, pourquoi pas, en accompagnant un orchestre de musique. Ou... Alors, à partir d'un certain niveau, il n'est pas facile de distinguer une approche sociologique ou ethnographique.
Ouais. Philippe Descola, qu'est-ce qui distingue, au fond, l'anthropologie telle que vous l'avez pratiquée, et puis celle, aujourd'hui, de cette nouvelle génération, là aussi ?
Il n'y a rien qui la
les
distingue.
Bases restent exactement les mêmes.
Encore une fois, c'est le temps qui fait la différence.
Péric Pitrou, dans votre domaine, l'anthropologie de la vie et du vivant, par exemple, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui bougent dans la façon de travailler en faisant justement appel à d'autres disciplines scientifiques ?
Tout à fait. Alors justement là, plutôt, c'est peut-être plus simple de m'appuyer sur ma propre expérience. En fait, à partir de l'enquête de terrain que j'ai menée chez les Mirrés du Mexique, j'ai observé des pratiques sacrificielles, donc des sacrifices de volailles, qui impliquent évidemment des conceptions de la vie chez ces populations. Et en particulier, ce qui m'a mis sur la piste, en fait, d'un nouvel objet d'étude pour moi, c'est le fait que les prières formulées en langue vernaculaire mentionnent régulièrement une entité qui s'appelle « celui qui fait vivre ». Et donc, en creusant, en fait, cette transcription et cette description ethnographique, j'en suis venu à me demander quelles étaient les actions qui étaient réalisées par celui qui fait vivre. Et j'en suis après venu à élaborer, à partir des Mirrés, puis des peuples de Mésoamérique, une conception de la vie envisagée comme un processus de fabrication. À partir de ce point, je dirais, de théorisation, mais qui émergeait vraiment d'une description empirique, j'ai commencé à engager une comparaison avec des collègues travaillant en Amazonie et en Océanie pour voir quelles sont les conceptions de la vie et du vivant qui prévalent dans ces régions du monde. Et à partir de ce point, j'en suis arrivé aussi à commencer à documenter des pratiques très contemporaines dans lesquelles l'action des humains sur le vivant est aussi en jeu.
Et dans la biologie. Dans la biologie. Par exemple. Hein.
Aussi dans des pratiques telles que la biomédecine, le biodesign, ouais. Le bio.
C'est quelque chose de nouveau, ça, dans l'anthropologie ou pas, cette relation avec d'autres disciplines et celle des sciences dures, par exemple?
Moi, j'aurais tendance à dire que non, dans la mesure où on a quand même, avec Lévi-Strauss, déjà quelqu'un qui s'est toujours intéressé de très près aux avancées de la biologie. Donc, c'est pas si nouveau que ça, mais il y a une reformulation des problèmes avec, en fait, l'augmentation des pouvoirs que les humains peuvent exercer sur le vivant. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est très nouveau.
Charles Stepanov, alors du côté de la Sibérie et du chamanisme, par exemple, ça a été votre terrain de recherche aussi. Là, pareil, comment ça s'inscrit aujourd'hui, en 2016, ce type de travail qui peut nous faire penser quand même à quelque chose d'assez classique dans sa forme?
Alors, ce qui est différent de ce qui pouvait se faire dans l'anthropologie classique, fin 19e, début 20e, du chamanisme, c'est que c'est le monde contemporain post-soviétique, c'est-à-dire que le terrain, il se situe dans un monde urbain, par exemple. Moi, les études du chamanisme que j'ai fait, c'était pour beaucoup en ville, et les rituels étaient complètement intégrés dans la vie contemporaine. C'est des rituels pour purifier une voiture, pour trouver un travail, pour retrouver son passeport. Donc on était face à des dimensions qu'on n'a pas du tout dans l'ethnographie du chamanisme classique, qui est liée à un mode de vie nomade, de chasse, etc. Cependant, j'ai essayé de voir, en fait, ce qu'on trouve de souvent très, très paradoxal, déstabilisant comme rencontre entre ces aspects post-soviétiques, post-modernes, urbains, et des modes de conception qu'on voit durer depuis le XVIIIe siècle, en fait. Et essayer de comprendre pourquoi, malgré ces métamorphoses de cette société, qui sont faites dans la violence, avec la sédentarisation forcée, la collectivisation, on a des schèmes d'interprétation des différences de compétences entre les gens, qui fait qu'on va supposer qu'il doit advenir des chamans, des gens qui ont des contacts particuliers avec les non-humains, malgré le changement social et historique. Et donc ça m'a mené vers l'anthropologie cognitive, qui fait des passerelles entre la psychologie et l'étude de terrain, pour essayer de discerner quels sont ces schémas conceptuels qui guident la catégorisation.
Philippe Descola, ça c'est aussi l'avenir de votre discipline, ces passerelles précisément qui se multiplient, là on le sent bien, dans tous les domaines, vraiment la multidisciplinarité, c'est ce qui change absolument tout, aujourd'hui en sciences d'ailleurs très largement, aussi donc en anthropologie.
C'est pas complètement nouveau. D'abord parce que, par exemple, Mauss a été président de la Société française de psychologie. Lévi-Strauss a été un pionnier dans la connaissance et l'usage de travaux de psychologie, notamment sur la question des catégorisations. Mais c'est quand même pas très répandu parce qu'il y avait une dimension très sociocentrique. Ouais. On s'intéressait plus aux institutions qu'aux capacités que les humains mobilisaient pour accomplir tel ou tel acte, pour prononcer tel ou tel énoncé, pour catégoriser. Or, il est impossible de faire de l'anthropologie sans ignorer les apports des sciences cognitives, dans la mesure où nous passons notre temps à travailler sur des questions comme la mémoire, comme la communication, comme le langage, qui sont des expressions dans lesquelles, évidemment, la cognition joue un rôle important. Et donc, il y a un travail très délicat, en quelque sorte, d'interface, mais qui nécessairement est fondé sur la connaissance des autres sciences les plus voisines. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, je pense que Péric Pitrou l'évoquait à l'instant, il y a un domaine qui est en pleine expansion et qui avait été considérablement délaissé par l'anthropologie française, qui est l'anthropologie des sciences, c'est-à-dire, au fond, étudier des laboratoires. Bruno Latour, en particulier, dans son livre sur la vie de laboratoire, a été pionnier en France dans ce domaine. Et au fil des années, ça, j'ai souhaité l'encourager au sein du laboratoire d'anthropologie sociale et d'une manière plus générale, on voit se dessiner de plus en plus de jeunes chercheurs qui s'intéressent à l'anthropologie des sciences. J'ai une étudiante, par exemple, qui travaille sur le laboratoire de primatologie de Matsusawa au Japon, qui fait donc une enquête ethnographique, tout en ayant évidemment des compétences en primatologie, sur la façon dont ce laboratoire mène des enquêtes sur les capacités cognitives des chimpanzés.
Véric Pitrou.
Ces thématiques contemporaines liées à la biotechnologie sont aussi abordées grâce à un programme qui a été initié par le CNRS, qui s'appelle une pépinière interdisciplinaire « Domestication et fabrication du vivant », dans laquelle des chercheurs en sciences sociales collaborent avec des chimistes et des biologistes. Donc ça, c'est vraiment aussi très important de le souligner, c'est que les institutions ont vraiment un rôle crucial moteur pour ce genre d'approche pluridisciplinaire, avec aussi dans le cahier des charges l'idée d'ouvrir l'exploration et les discussions sur ces savoirs au grand public à travers des conférences et aussi des séances de films débats, etc.
Voilà, donc de nouvelles formes qui se dessinent pour l'avenir de l'anthropologie. Charles Stepanov.
Oui, tout à fait. Je crois que le rôle sociétal de l'anthropologie, il va être de plus en plus manifeste par des collaborations qui montrent en fait que ce qu'on étudie, nous, anthropologues, les relations sociales, ça a un impact pas seulement dans la société, mais dans les rapports de l'homme à l'environnement, par des concepts et des méthodes hybrides qu'on développe de plus en plus, notion d'anthropocène, les effets géologiques, en fait, des activités humaines, les interactions entre hommes-animaux, par la question de la domestication. Il y a l'anthropologie des microbes, par exemple, qui se développe également, autant de domaines qui sont à l'intersection entre sciences naturelles et sciences sociales et qui ont des impacts très importants pour comprendre la relation de l'homme à l'environnement et la réformer.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Philippe Descola, ravi de vous avoir retrouvé. On peut lire entre autres La composition des mondes, paru chez Flammarion, pour revenir sur votre trajectoire. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup.
C'était comme chaque semaine en partenariat avec nos confrères du Point. Merci à Céline Hila qui a réalisé Chercheurs d'avenir, Lucie Sarfati qui l'a préparé et Anthony Thomasson qui était aujourd'hui à la technique. Passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine.